Our second speaker is my colleague from the Faculty of Law at McGill University, Shauna Van Praag. Her paper is entitled Voisinage, ébauche d'une danse moderne.
Shauna. Merci. Et j'ajoute mes remerciements à tout le monde qui a eu l'inspiration pour ce centre qui sert déjà comme un site de rencontre et puis aussi de l'interdisciplinarité dont on parle souvent à l'université, mais en effet, dans notre vie quotidienne, ça n'arrive pas assez souvent. I'm going to start by explaining a little bit why my colleague Daniel Weinstock would have written to me as a law professor to ask me to participate in this panel and in the work of the center. When he wrote to me this summer, he said, we're going to be talking about Montreal's specific brand and mode of multicultural creativity, and then asked me to participate, I think based on some of my past research, which has varied, I think, provocative titles and titles that actually nicely follow up on this last question, an article called The Chutzpah of Hasidism, another one, View from the Sukkah, and another, Sidewalk Stories, Sites of Encounter and Coexistence, all ground up, if you like, and that's what I'm going to talk about today, from the sidewalks of Mayaland and Outremont. But interestingly, as I received this message, I was sitting in Jerusalem, and I thought, what... You know, here I was in a city that you cannot walk 10 steps without being struck with ongoing challenges and encounters and multiple languages and stories and traditions and history. Such a remarkable city. And it was nice to be reminded in that context about what a remarkable city I was going to be coming back home to. And to do a little bit of comparison as I walked the streets of Jerusalem and thought, even then, a couple of months in advance, about what I would say today. So I'm going to start briefly with explaining the title, Voisinage et ébauche d'une danse moderne, because it's not clear right away either why a law professor would be talking about dance and also voisinage. Well, first of all, voisinage, c'est un terme précis en droit, et en effet, en droit privé, dont je suis experte, ou bon, au moins professeur. Et puis, si on regarde dans le Code civil du Québec, article 976, article 976, on trouve... le droit, si on veut, les règles qui concernent les troubles de voisinage. Et ça, c'est très intéressant. On voit voisinage dans le contexte des troubles de voisinage. Comment on habite comme voisin, c'est quoi les attentes d'un voisin vers l'autre, c'est quoi l'équilibre entre nous comme voisins géographiques, littéral, et puis voilà, en droit privé, on a une règle sur ça. The rule doesn't give us a whole lot of detail. It basically tells us that we have to put up with, right, a certain degree of frustration and, in fact, annoyance living next to each other, but that, right, there's a limit, and if what the neighbor does surpasses that limit, then perhaps we have a claim in private law. We don't know exactly where the limit is. The limit depends on how we live together and define our neighborhoods. I've used this notion of voisinage, les troubles de voisinage, l'équilibre entre voisins comme métaphore pour explorer les rapports interculturels, la réalité multiculturelle ou diverse dans les quartiers de Montréal et puis en général comme exploration des modèles de multiculturalisme, interculturalisme et autres. Why dance? And I'm going to have to actually here revise the title because in talking to a choreographer in contemporary dance, I was told that this was the wrong term. It's not danse moderne. Ça, c'est la danse ancrée dans l'histoire, la danse des années 50-60. Alors, pour vous qui êtes peut-être experts en danse, c'est pas la danse moderne dont je parle, c'est la danse contemporaine. Et puis, ça, c'est important, parce que contemporaine, c'est aujourd'hui aussi, c'est lié, je pense, au terme que ma collègue vient d'utiliser souvent, cosmopolitaine. Alors, voilà, je vais utiliser les quartiers de Maryland et Outremont aujourd'hui comme ébauche d'une danse contemporaine. Un regard sur le voisinage et puis les façons, le comment on existe comme voisin, comment on partage ces défis d'être citadin et citoyen en même temps. Alors, voilà, je veux commencer avec une image de danse contemporaine pour tout le monde qui va servir comme inspiration de mes remarques. L'automne dernier, au théâtre Maisonneuve, Danse Danse présentait Diptych, une œuvre créée et chorégraphiée par le fondateur et directeur artistique de la Montréalaise Compagnie FLAC, José Navas. Connu pour l'intensité et l'émotion de ses créations originales de danse contemporaine, Navas utilise pour la première fois dans Diptych une technique surprenante pour quelqu'un qui, comme chorégraphe, investit toutes ses énergies dans l'architecture de mouvements et des interactions entre danseurs comme interprètes. Il laisse aux danseurs la liberté et, en même temps, la responsabilité de quelques séquences improvisées. Toujours architecte principal, Navas accepte la souplesse et la surprise. Il donne aux individus la possibilité de trouver et montrer leurs propres gestes, leurs idées, leur façon de communiquer et de vivre ensemble. Comme professeur de droit, qui assistait à ce spectacle, j'ai été frappée par les leçons pour n'importe quel enseignant qui dirige ses étudiants dans l'espoir qu'ils vont tous trouver leur propre voie comme direction et voie comme langue, leur propre geste et interprétation des données. Mais plus encore, j'ai été frappée de voir les leçons qui s'imposent pour le droit lui-même, pour une compréhension du droit et des normes dans nos vies qui met l'emphase sur l'épanouissement organique, qui répond aux voix des participants, qui montre une souplesse incontournable. Le droit est fondé sur notre vie collective et par ailleurs structure nos projets partagés. À ce titre, la recherche des modèles et métaphores et pour le droit très importante, surtout si l'on veut bien comprendre et bien développer ses sources et ses sites. Tout comme la danse contemporaine, selon Navas, le voisinage dans les quartiers mixtes de Montréal est aussi un de ses modèles ou métaphores. Alors, les quartiers de Montréal, comme les danses, ont chacun leur musique distincte et mouvements uniques. Ils ont leur propre rythme et leur propre harmonie, leur propre caractère et leur propre dissonance. On peut certainement identifier les règles de danse ou de quartier qui sont explicites, autoritaires, ancrées dans des pratiques et des politiques, dans des codes, des constitutions, même des chartes. Mais on peut aussi trouver, avec un peu d'attention et de sensibilité, des coutumes implicites, des possibilités de variations créatives, des espaces pour des interactions inattendues, des points de repère dynamiques. C'est la diversité sociale en action. Et ce que Rod McDonald, notre collègue à la Faculté de droit de McGill et ancien président de la Commission du droit du Canada, appelle le droit du quotidien. In fact, this is a methodology, an approach to law, termed legal pluralism, a methodology that moves us away from the state as principal source of law and rules, although it of course acknowledges the rules that come from the state and their significance in many ways, and looks instead ground up, as I suggested in my opening remarks, pays attention to the very small, the very concrete, in order to try to say something big, to reflect on the significance, as Chancellor Chambers reminded us in her introductory remarks, the significance of Montreal for Quebec, Canada, and beyond. Past work, I've focused on the sidewalk and on our encounters on the sidewalk, the ways in which we share those sidewalks. And here I'm particularly, I guess, chose the sidewalk as a place to think about those encounters because of what one often hears in Outremont over the past couple of decades about our Hasidic neighbors in Outremont, this idea that they don't share the sidewalk. And so I thought about this a lot and about what that means to share the sidewalk and what the sidewalk represents for us as neighbors, as co-citoyens. So I'm going to talk very, very briefly about the sidewalk and then move on to a little walk through the streets of Myland and Outremont, moving us off the sidewalk and actually into several sites, like through the doors, places where we are actually invited in by the neighbors. I want to actually think about sidewalks, and have done this in some previous writing, as more than just places where you have to kind of negotiate who moves to the right, who moves to the left, whether the baby carriage takes up all the space, whether you have to move your puppy off the sidewalk onto the grass while somebody passes. And think more about sidewalks as public spaces, collective sites of intersecting interactions. That sidewalks are places to sell things. You can just go for a walk around these particular neighborhoods this weekend and you'll see this. Places to sell things, places to sleep, places to put out a hat for money, places to train a dog, to play hopscotch, to color a chalk picture, to negotiate a business deal, to operate a snow removal truck, to sell lemonade, to learn how to ride a bicycle, right? All of these things are happening all the time on our shared sidewalks. Interestingly, here, the Eruv, which some of you may know about, but I will talk about briefly, is an interesting phenomenon and a lens through which to think about this notion of sidewalk. The neighborhood of Outremont in Montreal, every Saturday on Shabbat, the sidewalk is both a public path for many people, but it's also, because of the Eruv, an invisible wire. It's not that, it's pretty invisible, mm-hmm. Although if you go, you can look up and you can see it. It's like a little string around the neighborhood, usually attached up on the third floor of the triplexes. And what it does is extend the homes, Hasidic Jewish homes in the neighborhood, into the public space, so that as people walk within on the sidewalks that come within the demarcation offered by this string, the Eruv, they are still in fiction, right? But in an important sense, in their homes. So they can carry things. They can carry their kids. They can carry food to someone's house. They can push a baby carriage. And so that ground is deemed domestic, it's deemed private for some people, for religious reasons, and therefore, right, a very nice example of truly shared space. For many people, this is clearly just public sidewalk, right? And for others, for the religious communities, here they are defining the sidewalk as private for particular important reasons. That example, I'm not going to go into more detail and about the litigation that has happened in Quebec Superior Court over this, where the court is basically told the city of Outremont that they had to stop pulling down the Erev and just leave it there. It wasn't really bothering anybody. Although it was bothering one of the neighbors who said she couldn't fly a kite, but that actually was the argument brought in court, and I'm happy to talk about that more in questions. But right, a very interesting example to just get us thinking about how different people can define shared space in different ways, and that those different definitions coexist. But now, as I promised, I'm going to actually invite us through the door into the businesses and sites of education, in particular of certain neighbors in these neighborhoods. And I'm inspired in doing this, actually, by the work of a Hasidic woman who lives in Outremont and a writer, the author of a book called L'Chaim, Chronique de la vie Hasidique à Montréal, in English, interestingly translated as Rather Laugh Than Cry, Stories from a Hasidic Household. I'm not sure why in English they couldn't put the L'Chaim in there, but anyway, it's there in French. And it's very interesting. She actually basically invites people into her home through her writing. She says, I'm not going to do it really. I'm not going to go out on the sidewalk and say, please come on in and see how a Hasidic family lives. You can all, you know, sit at the dining room table and watch my 12 children. She says, but through my writing, I will invite you in. She writes first in Yiddish that has then been translated and therefore becomes an invitation to her next door neighbors and fellow citizens in both French and in English. And she shares her space that's usually closed off as private or domestic. She invites people in to think about and to recognize in an important way the complex ways in which religious women organize and experience their overlapping membership in their communities of faith and in the broader community at large. So kind of inspired by that invitation through writing, allons-y, une petite promenade dans les rues de Maryland et d'Outremont, avec les petits arrêts sur notre circuit. Commençons avec une visite chez Au Papier Japonais sur Fairmount. Alors, je commence avec trois entreprises, des variations sur un thème. Ici, Au Papier Japonais, nous sommes introduits au papier washi fait à la main au Japon et destiné aux mille et un usages imaginés par les clients eux-mêmes. Store, invitation à abat-jour, collage, animaux, peinture, un matériau et une base transformés dans les mains des enfants, adultes, enseignants, artistes. Alors, c'est très important comme image, quelque chose qui est offert comme base et puis qui est destiné à la transformation par les individus, par les clients. Continuons quelque part pour arriver chez Manureva sur Saint-Laurent, une boutique coopérative de potiers québécois. Ici encore, un seul matériau de base, mais l'évidence de plusieurs personnalités, techniques, passions et objectifs. Les clients sont invités à choisir les petites œuvres d'art, à donner, à garder, à s'en servir, à s'en inspirer. Alors, une variation, évidemment, ça c'est quelque chose déjà fait, mais par les artistes différents, tous québécois, mais tous distincts. Si la promenade nous donne faim, rendons-nous chez Hesky, sur Bernard, boulangerie juive hassidique, populaire parmi les clients qui cherchent leur pain challah pour Shabbat. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi, il y a beaucoup de monde, du monde hassidique à la porte, mais en même temps, il y a une diversité de clients chez Hesky. Alors, c'est populaire aussi pour d'autres mondes qui cherchent biscuits et pâtisseries riches en chocolat pour n'importe quelle occasion. Encore ici, une entreprise spécialisée, mais néanmoins ouverte aux variations, goûts et désirs diverses. Alors, je commence avec tous ces trois exemples très concrets, trois variations sur un thème. Des entreprises, ça c'est important, les portes évidemment sont ouvertes à tout le monde. Mais je veux aller au-delà du papier, poterie, pâtisserie pour visiter d'autres sites
Et ici, les sites d'apprentissage situés ici et là dans les quartiers abritant des enfants appartenant aux communautés diverses qui forment le fondement du quartier. Alors ici, je vous invite à suivre les enfants du Maryland et Outremont pour bien comprendre le potentiel des quartiers. Arrêtons-nous au parc Outremont pour une petite séance dans le carré de sable. Voici un espace partagé dédié à la création et au développement des outils d'interaction avec l'autre. Les petits se regardent ou bien s'ignorent. Ils apprennent à parler en découvrant que la qualité multilingue de leur ville se reflète ici. Ils trouvent des façons de communiquer alors que leurs parents ou même leurs grands-parents ressentent plus vivement les différences qui les séparent. Continuons notre promenade vers la cour d'école primaire Nouvelle-Kerbe, une école alternative marquée par l'autonomie incontournable de chaque enfant et incontournable et soutenue. Et aussi la citoyenneté dans une communauté ouverte aux projets individuels et créatifs et une approche à l'enseignement qui insiste que les jeunes posent des questions, apprécient leur société dans toute sa complexité, transforment leur vie quotidienne en grande expérience de recherche et d'apprentissage. Visitons enfin les écoles secondaires du quartier. Ici, on peut imaginer toutes sortes d'écoles secondaires. Il y a un spectrum assez divers. En comparant en particulier les cours d'éthique et culture religieuse donnés par les professeurs, différents mais tous inspirants, dans les institutions ayant des histoires et des visions uniques. Dans chaque salle de classe de ce cours obligatoire, nous trouvons des discussions complexes menées par voix jeunes, curieuses et passionnées, respectueuses des identités et des croyances, non seulement de leurs pères adolescents, mais aussi de tous les membres de la société autour d'eux. C'est une conversation qui continue au-delà des murs d'école, entre individus, familles et communautés d'une part, et institutions, écoles et décideurs politiques de l'autre. And of course, I choose this example because it is at the center of litigation going to the Supreme Court of Canada on exactly this question, the limits of variation on the teaching of a mandatory course that represents, if one likes, the projet partagé, peut-être les mêmes, les valeurs sacrées de toute la province du Québec. And here, so let me finish off here. Here we have a little walk, a promenade that can be changed every time, modified every time, that next time around you can stop somewhere else, right? And it's very particular to this neighborhood or these two neighborhoods, Maryland and Outremont. I've picked particular places, but of course the dynamic is meant to reflect something special about Montreal, un mélange des histoires et des expériences, des produits et des personnes. De la perspective du droit et de la diversité sociale, ces arrêts sont des sites qui inspirent les modes de la gouvernance, l'articulation des politiques, la rédaction des règles, l'interprétation des normes. Nous trouvons, dans nos quartiers de Montréal, parfois la confrontation et les conflits, parfois la collaboration et la créativité, mais surtout la coexistence et la construction. Et je parle pas seulement de la construction littérale dans les rues. Les voisins sont finalement comme les danseurs, prêts à suivre les lignes directrices des chorégraphes, capables d'offrir les contributions importantes et originales à la création de l'œuvre et beaux à regarder dans leur propre interprétation et gestes. Ce qu'ils construisent constitue notre quotidien et aussi nos rêves. And I want to suggest that those are exactly the ingredients of law.
Well, thank you very much, Shauna, for that wonderful invitation to think about the condition for negotiating successful diversity from the ground up. I think in many ways there were recoupements between Annick and Shauna, which were, we have to think about these issues where they are located, rather than in some sort of abstract netherworld of abstractly conceived of values. So we have about 6 or 7 minutes for questions, comments. Oui.
J'ai une question. J'ai beaucoup aimé cette vue de trottoir qui montre la qualité de vie dans ce quartier-là. But one element seemed to be left out that seems important to me. It's the enormous gentrification going on in that neighborhood and the lack of the declining diversity that's happening as a result as we speak. I would be curious to hear your take on that mm-hmm. part.
Mm-hmm. Yes, well, okay, so here I have to admit that that I'm a legal theory professor, right? Like, this is theorized. And I think it would be extremely important to think about, and here maybe Annick is better placed to think about this, or others in the room, about that importance of socioeconomic diversity. Because when we're talking, and now... To be fair to us, I think the panel was about kind of multiculturalism and thinking about cultural diversity in the city, but I think you're exactly right
it's
that...
It's also less multicultural as a result.
Okay, so if we kind of think about historical periods and of new waves of groups coming and making their lives on exactly these streets and on these sidewalks and then moving out and then... perhaps not being as welcoming a place because of that, the prices are so high and the cost of living so high that one doesn't have that mix happening, which perhaps will have an impact on that dynamism and the creativity. I think, I guess my response would be that it's just something to watch about whether, right, and to think more about. Maybe that's a good projet de recherche, right, that link between creativity and that kind of socioeconomic and cultural diversity.
Bonjour, merci. Deux présentations très inspirantes. Mon nom est Louise Gay. J'ai créé un laboratoire urbain, le laboratoire, le Living Lab de Montréal, et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions après vos présentations. Dans la première présentation, il y a toute une notion, une réflexion sur l'État, je dirais. Parce que, en quelque sorte, en vous écoutant, on se dit, est-ce que l'État, maintenant, se trouve vraiment toujours où il est? Par exemple, est-ce qu'il n'est pas plutôt dans les villes? Est-ce que la réalité économique concrète, où se passe-t-elle? Et quand vous écoutant vous, puisqu'on parle de mobilité, peut-être que c'est un État beaucoup plus mobile, beaucoup moins statique dont on a besoin. Vous avez parlé des jeunes. Il y a des études citoyennes au Media Lab qui viennent de sortir sur l'activisme numérique des jeunes. Ils ne s'identifient pas à l'état des partis, mais pourtant ils sont extrêmement dynamiques. Souvent, ils utilisent des données ouvertes, ils sont sur des réseaux où ils échangent constamment, où ils votent pour ou contre, ils sont en interaction, mais ils ne sont certainement pas statifiés, rigidifiés dans des formes politiques, étatiques, territoriales, classiques. Alors, l'inspiration de la ville et même la pratique urbaine, je pense, pourrait peut-être donner naissance à des formes d'État beaucoup plus mobiles, virtuelles, et mélanger aussi avec le réel. Nous avons travaillé avec le PMAD, avec la communauté métropolitaine de Montréal, pour faire des plateformes de consultation citoyenne, justement qui amenaient quelque chose, pas seulement comme l'office de consultation publique, mais vraiment des plateformes de consultation où le public, le privé et le citoyen, les villes, permettaient aux gens de pouvoir visualiser des options et dès le départ, donner leur avis sur les espaces de vie qu'on doit concevoir autour de la mobilité. Alors, je pense que ça, c'est important aussi de pouvoir amener cette notion de... Et il est certain que dans les pratiques politiques actuelles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelles places on fait, pas des formules toutes faites de villes intelligentes avec la formule déjà applicable, mais vraiment négocier, chorégraphier des espaces de partage réels, virtuels et souvent développés dans nos villes présentes.
Moi, je dirais juste un commentaire. Je tire beaucoup d'inspiration du travail de Sherry Simon, anthropologue à Concordia. Mais c'est intéressant, en relisant son livre Translating Montreal, Stories of a Divided City. Et puis, j'ai pensé à exactement ça. Les jeunes se trouvent pas dans une ville divisée comme ça. Ils ne voient pas des choses noires et blancs. Ils ne s'identifient pas comme leurs parents ou leurs grands-parents, comme moi je suis membre de cette communauté ou même de ce quartier, mais de cette communauté où je suis comme ça. Alors ça, c'est très important d'essayer de voir comment eux, ils font ce projet d'intégrer ce qu'ils ont comme données, mais de créer quelque chose de nouveau.
Donc, une économie collaborative plus qu'une économie de consommation.
Voilà.
Alors, une dernière question ici.
Je vais passer, j'ai beaucoup de voix. Patricia Lamont. C'était pour contredire, à vrai dire, on vit encore une ville divisée. Depuis 3 ans, on fait une collecte de données sur la ville, Mapping the City. Oui. Avec les jeunes, et encore une ville qui est imaginée comme divisée, tout en mettant de l'avant le multiculturalisme, le cosmopolitisme de la ville qu'on adore. Mais la ville, on la vit comme une ville divisée. C'est ça qui émerge de données ethnographiques.
Mais peut-être, en effet, pour répondre à ça, et peut-être, je prends pour acquis que ça, c'est vrai pour beaucoup de monde, mais de trouver les sites où on peut commencer à modeler quelque chose qui est un peu différent, et puis d'imaginer avec ces sites comme source des possibilités, peut-être.
Thank you, Shauna. Est-ce que tu voulais intervenir sur ce point?
Je vais peut-être m'avancer beaucoup, mais c'est votre faute. Vous me provoquez.
C'est ma faute, j'assume.
J'ai l'impression qu'avec le projet de charte actuel, on est en train de vivre les derniers moments d'une vision dépassée de l'État. Okay. Ou disons que certains aimeraient bien nous montrer qu'elle est encore faisable, réelle. Bon. Et moi, je pense que non. Bon. Alors, sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a des enjeux énormes. Hein, et je crois qu'il y a une partie des enjeux, ils sont générationnels aussi. Hein. C'est une génération qui a porté un rêve d'un certain type d'État qui, depuis quelques années, ce rêve d'un certain type d'État a pris des colorations qu'il n'avait pas nécessairement au début. C'est pour ça que j'ai parlé de républicanisme à la française, parce que je trouve que c'est quelque chose d'un peu... Hein. Mais, alors, on est là. Et donc, c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment est aussi grave, parce que ça va chercher loin dans les identités et les projets de générations différentes. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut faire très attention et déployer tout notre sens sociologique, je dirais, pour comprendre ce qui se passe à droite et à gauche. Parce que, je crois que c'est un moment très, très grave. Je suis quand même relativement optimiste sur le long terme parce que je crois que c'est une vision de l'État dépassé, mais que dont on vit les derniers sursauts. Hein, et c'est encore cette idée que, en fait, l'État peut se substituer d'en haut aux arrangements d'en bas entre pairs. Bon. Et je crois que c'est exactement là qu'on est. Mais bon, je suis pas sûr que je répéterai ça très souvent.
Caméra en haut, on est filmé. Tu as donné ton consentement pour la captation vidéo?